Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une émission placée sous le signe de la fugue, des envies d'échapper belle et des confins du monde. Nous sommes très heureux de recevoir Arthur H. qui publie Fugue, au pluriel, au Mercure de France. Bonjour Arthur H.
Bonjour.
Et Sigolène Vincent qui publie Maritima aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Sigolène Vincent.
Bonjour.
Soyez les bienvenus dans le temps des écrivains. Arthur H., on vous connaît comme auteur, compositeur, lecteur, lecteur de textes aussi en musique. Je vous ai entendu lire il y a des années les premiers romans, enfin des extraits des premiers romans haïtiens de Dany Laferrière, accompagné de musiciens. C'était magique, c'était au Havre.
Oui,
je crois, c'est ça.
Oui.
Et vous serez dans un autre port, Marseille, le dimanche 2 juin, je crois, dans le cadre du festival Haut les Beaux Jours,
ouais.
Au Mucem, face à la mer,
ouais.
Pour lire votre texte.
Ouais.
Voilà, le texte Fugue. Alors je disais Fugue au pluriel parce qu'il y en a trois. Trois fugues pour un récit en forme de portrait, d'autoportrait, de rêverie aussi. Je ne sais pas très bien comment l'appeler, hein, c'est ça ou...
ouais, je ne sais pas non plus.
Non plus.
Personne,
on va essayer. Peut-être qu'à la fin, on arrivera. Ouais. Puis je ne sais pas s'il faut définir, d'ailleurs. Peut-être qu'on s'en fiche.
Un récit romancé, je ne sais pas.
Eh ben c'est bien, ouais. Récit romancé. C'est une évocation de trois destins, trois volontés, trois moments, trois époques. Donc trois fugues, pour commencer celle de Bach. Jean-Sébastien Bach, l'auteur de L'Art de la Fugue, c'est votre morceau préféré?
C'est une œuvre que j'écoute depuis toujours, ouais, qui est assez abstraite. C'est de la musique, ça rigole pas trop, quoi. C'est quand même vraiment une recherche un peu formelle, mais qui devient très très belle, malgré le fait que c'est purement formel. C'est une œuvre que Bach n'a jamais publié de son vivant, qu'il a, pour ainsi dire, fait pour lui-même, en fait, pour son propre plaisir, et aussi son désir de léguer sa science de la fugue, de la partager.
Science de la fugue, c'est pas mal ça aussi.
Ouais.
Bach, il apparaît au narrateur dans les premières pages du livre. Je dis narrateur, je dis Arthur H, je dis quoi?
Narrateur, c'est bien, je trouve que c'est joli narrateur, parce que c'est celui qui raconte l'histoire, donc c'est
voilà.
Bien.
Donc le narrateur, et il apparaît, il parle dans une langue bizarre, alors il apparaît sous la forme d'un hologramme, il parle un mélange d'allemand, de français, d'anglais, je voulais le citer, puis en fait je préfère que vous fassiez vous peut-être Mein der Arthur, parce que c'est une performance, il faut être agile.
Bah, disons que je trouvais que l'histoire de ma mère était quand même assez sérieuse, et puis moi j'aime
voilà, donc
bien...
Voilà, donc ma mère, donc là c'est plus le narrateur, là on est parti, enfin c'est le narrateur-auteur.
Voilà.
Ouais.
Était quand même assez sérieuse et assez dramatique, et du coup j'avais envie de mettre de la fantaisie, donc voilà, je me suis un peu lâché sur Bach.
Voilà.
Parce que j'explique quand même aux auditeurs pour pas qu'ils aient peur que ça soit tout le livre soit comme ça.
Non.
Cet esprit de Bach qui vit dans une autre dimension, pour s'exprimer, doit passer à travers mon cerveau, et mon cerveau qui est extrêmement limité, et du coup qui parle très mal allemand, alors... Et quand tu es parti à Lübeck voir le vieux Buxtehude, Arsch, Gott, 400 fucking bornes d'Arnstadt à Lübeck, je suis parti le 18 octobre, marche forcée à travers Wunderbar Landscape. J'avançais vite pour pas sentir froid. Explosion de musique under mein Kran. Ça me rendait crazy, all this Wunderbar Musik qui traversait moi. J'avais déjà divine énergie. Pour moi, musique, it's mental. Je chante toujours dans mein caboche mystique. La marche und Composition vont ensemble très bien.
C'est vrai que tout le livre n'est pas comme ça.
Première
page, ça fait beaucoup rire, Sigolène Vincent.
Ouais. C'est pas mal. On dirait le Nucingen chez Balzac, un peu.
Ah oui, c'est pas mal, exactement. Alors, le compositeur de L'Art de la Fugue, qui est œuvre inachevée, hein, d'ailleurs aussi.
Ouais, ou en fait, on ne sait pas, parce que la dernière fugue ne finit pas.
Ouais.
Donc, est-ce que ça s'est perdu? Parce que énormément d'œuvres de Bach se sont perdues. Est-ce que ça s'est égaré? Est-ce qu'il n'a pas fini? Est-ce que, comme son fils a construit un peu la légende qu'il aurait fini en mourant et qu'il aurait écrit son nom en notes? Parce que chaque lettre correspond à une note, Bach. Donc voilà, c'était son dernier truc sur son lit de mort à la Mozart qui écrit son requiem. Mais en fait, non, en vrai, c'est une fausse légende. Donc on ne sait pas. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit inachevée la rend encore plus belle.
Ouais. Bach demande à l'auteur, au narrateur, de l'inspirer, de lui raconter des histoires. Alors évidemment, il va lui raconter des histoires de fugue. Celle de Nicole, 17 ans, sa mère, qui était une jolie fille à la forte tête, qui étouffe en 1958 dans sa banlieue communiste d'Argenteuil. Elle se sent prisonnière de son milieu, elle veut s'échapper, donc elle fugue le soir de ses 18 ans avec quelques copains. Donc c'est votre mère, Arthur Hachin, hein, c'est
ça? Tout le monde me dit ça, c'est un joli portrait de votre mère, mais quelque part, pour moi, c'est quand même un peu anecdotique.
Que ça soit votre mère?
Oui, enfin, évidemment, ça me touche personnellement, parce que je la connais, et c'est toujours... troublant de penser à la jeunesse de nos parents, qu'ils ont eu une jeunesse, qu'ils étaient des jeunes gens intrépides ou pas, ouais. et qu'ils ont vécu des aventures avant d'être des parents, quoi. C'est ton père, ta mère, et tout ouais. ça. Avant, c'était des êtres humains normaux. Mis à part ça, j'ai voulu raconter son histoire parce que je trouve tout simplement cette histoire très belle et que c'était aussi, j'avais très envie d'écrire. Et que c'était, enfin, dès qu'elle m'a raconté ça, l'idée qu'il y a des jeunes gens perdus comme ça, très jeunes, très immatures, d'Argenteuil, en banlieue morne de l'Ouest parisien, banlieue ouvrière, qui se retrouvent directement catapultés dans le maquis, sans aucune préparation,
dans le maquis corse,
ouais. complètement livrés à eux-mêmes, tels des enfants sauvages. Je trouvais cette histoire très très belle et j'avais vraiment envie de la raconter poétiquement, quoi.
Donc elle prend le maquis en Corse, elle arrive dans un village où ça va mal tourner et d'où elle devra retourner d'où elle vient. Deuxième fugue, c'est la vôtre ou celle du narrateur après un voyage avec son père Jacques en 1982 en Guadeloupe. Après avoir pris quelques champignons hallucinogènes servis dans une omelette et dans la maison de Coluche, le jeune garçon qui a 15 ou 16 ans, c'est ça?
J'avais juste 15 ans, après j'ai eu 16 ans pendant la fugue.
Voilà, ouais. 16 ans pendant la fugue, donc décide de rester. À cet instant, dit-il, mon inconscient a décidé de faire une fugue d'une façon directe et simple. J'ai dit à mon père, faut que tu me laisses. Et je me suis retrouvé tout seul dans l'obscurité, je maîtrisais mon angoisse, attentif au moindre bruit. La troisième fugue, c'est celle de Bach, qui jouera pour vous ce qu'il avait laissé inachevé, peut-être, et que vous, en tout cas, inachevé pour nous, puisqu'on n'a pas la fin, et que vous dédiez au chien fou qui court le long de l'autoroute, et à d'autres personnes, d'autres animaux aussi. C'est très beau, les mots s'agencent en une très poétique musique, c'est sincère et doux, ce livre. Vous êtes dans une roulotte quand vous écrivez, et elle est en photo la roulotte, on a même envie de vous l'emprunter, Arthur Hache. Il y a des photos, il y a des lettres, pourquoi est-ce qu'il fallait documenter cette fugue, Arthur Hache? Comme si les mots seuls ne suffisaient
c'est
pas.
C'est tout simplement le principe de cette collection, en fait,
13 et portraits.
13 et portraits. Créé par Colette Felou, qui m'a demandé d'écrire ce livre, et c'est le principe de sa collection. Elle-même, elle a commencé à faire ce genre de livre, et elle a trouvé que c'était un enrichissement, enfin, que c'était
de l'image par rapport
à de l'image. Ça peut être des dessins. Si j'avais voulu dessiner, il n'y aurait eu que des dessins, par exemple.
Ouais. Mais vous vouliez, vous, mettre des photos, notamment de votre mère et de...
Bah, en fait, quand j'ai commencé cette histoire, ma mère a retrouvé ces documents qu'elle avait totalement oubliés, qui étaient vraiment sous une boîte, ce genre de choses, la vieille boîte qu'on n'ouvre jamais. Et donc, il y avait toutes les lettres de cette époque-là, et notamment même la lettre du jour de ses 18 ans, quand elle s'est enfuie.
Ouais, qu'elle laisse hein, pour ses parents.
Qu'elle laisse cachée dans son lit, avec l'édredon qui a la forme du corps. Elle attache ses draps, elle passe par le premier étage, elle arrive dans la cour de leur petit pavillon, enfin tout comme vraiment dans un film, quoi. Et elle écrit la lettre où elle explique son truc. Et ben même cette lettre-là, on l'a retrouvée, ce qui est vraiment extraordinaire, parce que c'est un document plus des photos, voilà.
Sigouane Vincent, tout va bien?
Très bien.
Je vous vois écouter attentivement. Vous étiez venu dans cette émission pour Le Caillou.
Oui.
Il y a quelques années, qui était votre entrée en littérature. Vous, alors journaliste de Charlie Hebdo, sans cesse renvoyé à la tuerie du 7 janvier dont vous avez réchappé. Je vous y renvoie moi-même à l'instant même. Ce sera la seule fois, car vous êtes devenu depuis, au fil de vos livres, Courir après les ombres, Les jouisseurs, une romancière qui s'affirme et dont la langue marque vraiment. Je parlais de la musique, des mots d'Arthur Hache qui sont très sincères, qui sont très doux. Les vôtres sont plus âpres, parfumés, ils sentent la mer, ils sentent le pétrole, ils sentent les chevelures et les peaux des étangs, des filets de pêche. Vous avez un don pour restituer les sensations, Sigolène Vincent. Faut s'accrocher un peu au départ quand on entre chez vous, mais on ne le regrette pas. Quelques pages et on y est. Alors on est où dans ce livre? On est dans un bout du monde où elle aurait pu fuguer, votre héroïne, au fond, puisqu'on parle de fugue.
Bah, elle est très ancrée. Elle aimerait, je pense, fuguer. Elle est empêchée de fuguer par cette ville et par cette mer fermée, l'étang de Berre, qui est la deuxième plus grande mer fermée d'Europe. Mais je crois que son rêve, c'est de fuguer.
Ouais, elle est encalminée, comme on dit, d'un bateau. Ouais. En fait, on est effectivement, on l'avait dit, près de l'étang de Berre, à Martigues. Et depuis son appartement, très très élevé, Jessica, c'est son prénom, c'est une jeune mère aussi, elle guette et elle observe, alors pas seulement la montagne Sainte-Victoire qu'on aperçoit, pas seulement les salins, pas seulement la Croix, les usines, les torchères, mais l'eau du chenal qui mène à la mer. Elle est guetteuse pour deux vieux pêcheurs complices, son grand-père Joseph, communiste, et son ami Émile. Ils ont tendu leur filet entre les deux rives du chenal pour y prendre des muges. Qu'est-ce que c'est les muges ?
Ce sont des mulets, en fait. Ouais. On appelle les mulets des muges dans la région. Voilà. Et donc, ce sont des poissons les plus pacifiques, d'après Aristote. Parce qu'on parlait déjà des muges à l'époque
de la Grèce antique. Oui, vous citez beaucoup.
Oui, des histoires histoire naturelles, des livres d'histoire naturelle. Je suis fascinée par les livres d'histoire naturelle. Et je pensais en écrire un avec celui-ci, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, le muge est ce poisson pacifique qui va grossir l'hiver dans l'étang en mangeant de la vase, en raclant les coques des bateaux. Et les femelles, l'été venu, donc d'avoir tant mangé, finalement, portent des œufs. Pas seulement d'avoir mangé, mais elles portent des œufs. Et elles prennent le chenal, justement, pour aller vers le large, cette fugue tant attendue. Et là, les êtres humains tendent le câlin. Donc
C-A-L-E-N.
Ouais, voilà, C-A-L-E-N, mais ça se prononce le câlin.
Et donc, c'est intéressant.
C'est intéressant, oui.
Mais expliquez-nous ce que c'est que le câlin, d'ailleurs, et pourquoi on en rit.
Ouais. Ben, le câlin, ce filet, il est levé dans toute la largeur du chenal. Donc, les muges se prennent dedans et les pêcheurs vont récupérer les femelles. On les incise, on récupère les œufs, donc sous forme de deux poches, deux bourses liées par le pécou, par un morceau de chair, et on les fait sécher avec on les met dans du sel pour faire de la saumure, et ça devient la poutargue, donc qui est un mets très apprécié. Et donc c'est le caviar de Martigues.
Voilà, le caviar du pauvre, disent vos personnages.
Du pauvre, mais quand même
qui les rend assez riches.
Un petit peu riche quand même, parce que bon, 110 euros le kilo.
Voilà, oui, parce qu'on a tous les détails.
Oui, on a tous les détails.
Alors Jessica, elle guette l'arrivée des poissons et le moment de relever les filets. C'est elle qui les avertit, ces deux pêcheurs. Elle a un enfant qui s'appelle Sébastien, qui a 5 ans, dont le père est mort écrasé par une sculpture en métal d'un artiste qui s'appelle Morales,
qui est mort depuis. En fait, c'est un ancien ferronnier qui est installé à Port-de-Bouc, entre Port-de-Bouc et Fosses-sur-Mer, et ses statues sont toujours là, donc c'est avec des matériaux de récupération et assez fantasmagorique. Et donc, si on prend l'autoroute entre Marseille et Montpellier, on voit ces grandes mains de métal rouillées sur la portion d'autoroute. Mmh. Et c'est des formes assez effrayantes, terrifiantes.
Ça vous fait rire, Arthur.
Non, mais j'ai vu ces sculptures.
Ouais, elles sont assez. On se demande ce qu'elles font là. Le musée est fermé depuis 10 ans. Et donc, ce monsieur Morales avait créé un musée.
Il
est fermé depuis 10 ans. Mais les sculptures sont toujours là peut les apercevoir.
Oui, puis vous avertissez quand même le lecteur, aucune statue du musée Morales n'a jamais tué personne. Ça c'est très bien. Alors donc le père donc qui s'appelait Frankie est mort donc écrasé par cette sculpture en métal. Et dans ce bout du monde, alors il y a d'autres personnages que vous mettez en scène, Antoine et Dylan qui sont deux orphelins qui ont été recueillis par Émile. Ahmed, le compagnon de Jessica, qui est ingénieur donc qui a travaillé dans les usines du coin et qui est malade. Et puis va arriver Stéphane, prof de maths, la quarantaine, qui est amateur de surf mais qui pratique la plongée, la rando sous Marine. Donc c'est l'occasion aussi de nombreuses et belles descriptions. Ça a l'air tout tranquille en fait, ce petit bout du monde. On a l'impression que le temps est presque figé, qu'il a du mal à s'écouler. Mais en fait très vite, malgré la plage, malgré les sardines grillées et la poutargue, la tragédie va vite pointer le bout de son nez. Il aurait peut-être fallu fuguer, on en parlait pour Jessica, tant les bouts du monde sont aussi parfois le bout de la vie. Maritima, c'est le titre de ce livre qui semble donner une coloration assez onirique en fait à l'ensemble, comme une ville très ancienne. Et pourquoi pas d'ailleurs, car les romans sont aussi des villes. Pourquoi Maritima ?
Maritima, c'est le nom de la ville gallo-romaine qu'il y avait à l'époque sur le territoire de Martigues. Je ne voulais pas que ça s'appelle Martigues parce que ça serait forcément un Martigues qui n'existe pas puisque c'est celui de l'écrivain. Maritima parce que ça rappelle la mer, M-E-R et M-E-R-E.
Oui.
Et voilà, et le rapport aussi avec les livres d'histoire naturelle. Et je voulais rebondir parce que Martigues est communiste depuis 1956.
C'est ça, oui, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure.
Non, mais la poésie naît de ça. aussi, alors c'est peut-être pas le même communisme, parce que moi c'est un communisme au bord de la mer et sous le soleil, mais la poésie vient de cette politique sans alternance depuis 1956, curieusement aussi. Voilà, et des usines qui sont présentes, et ces usines qui, par l'argent qu'elles ont généré, ont permis de garder des côtes sauvages et quelques réserves naturelles maritimes.
Ouais, et ce qui fait aussi qu'au lieu des phares, les bateaux se repèrent à la lumière des torchères.
Ouais. Et sinon, il y a les quatre cheminées de la centrale EDF Ponto, et en fait, elles ne servent plus à rien aujourd'hui, ces cheminées, mais on se pose la question de les détruire ou pas, parce qu'en fait, c'est un repère pour les navigateurs, solitaires ou pas.
Oui, c'est vraiment tout un monde que vous nous décrivez, on y reviendra sur le choix de ce décor. Ça donne très envie d'ailleurs de retourner à Marseille.
Oui, c'est un décor qui est tellement cinématographique, quoi. C'est fou.
Et romanesque, parce que...
Ouais.
Mais c'était cinématographique à la base, et photogénique, et je me suis demandé comment le rendre...
Ces grandes usines, là, posées au milieu de nulle part, c'est extraordinaire. Ouais.
Et la présence animale, on en parlera aussi de cette dimension histoire naturelle que contient votre livre Sigolène Vincent. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, nous avons placé cette émission sous le signe de la fugue. Est-ce que vous associez l'un et l'autre, l'écriture à la fugue? Parce que je pensais en vous lisant au poème de Mallarmé, Brise marine, on est presque dans Maritima, qui commence, on connaît forcément le premier vers, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, mais surtout ensuite c'est fuir, là-bas fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Et le poème se termine par mais ô mon cœur, entends le chant des matelots. L'écriture et la fugue, c'est un peu la même chose, Arthur H.
Oui, sûrement, bien sûr, parce que, enfin, en tout cas, dans mon cas, j'ai un énorme plaisir à être solitaire. Et puis là, l'écriture était un très très bon prétexte pour être seul, déjà. Pour dire, foutez-moi la paix, je dois écrire. Donc c'est une fugue intérieure. Et puis après, il y a cette histoire de voyage dans les strates, en fait. Parce que c'est vrai que l'écriture permet de descendre de plus en plus, avec de strate en strate, et de comprendre des choses qu'on peut pas comprendre sans temps, en fait. Sans
descendre où?
Dans les sentiments, dans les émotions, dans la détermination des gens, dans leur pulsion intime, ce qui caractérise la fugue, c'est un désir comme ça immédiat de liberté, assez radical, même destructeur, on peut presque dire, de tout quitter, de casser quelque chose avec une certaine violence. Alors que, disons que c'est vrai que l'écriture, c'est plutôt plus doux quand même, parce que ça recrée le monde, quoi. Ça le reconstruit, ça remet les pierres. C'est une tentative de le comprendre qui est toujours vouée à l'échec, mais c'est plus constructif quand même.
Et pour vous, Sigolène Vincent, vous qui creusez, qui descendez de plus en plus profondément, justement dans l'écriture, vous avez changé de vie aussi, vous avez basculé. Est-ce que vous considérez aussi, est-ce que vous voyez l'écriture comme une forme de fugue?
Je pense, moi j'ai toujours envié ou voulu être un marin ou un navigateur en solitaire, mais comme je ne sais pas distinguer un phoque d'un spinnaker, je ne le suis pas. Et je pense que l'écriture, c'est un moyen de barrer aux étoiles autrement, quoi. Enfin, j'essaye de redessiner, moi, une carte de l'univers, la carte du quotidien, et une carte plus absolue qui intégrerait le cosmos et le grand attracteur. Enfin voilà, c'est une manière de redessiner une carte. Ouais.
Ouais. Et alors fugue, c'est intéressant, parce que quand on s'intéresse un peu à l'étymologie, en fait, le même mot, on parlait du latin tout à l'heure avec Maritima, mais fugue et fuite, c'est le même mot latin, fuga, qui a donné ces deux mots qui, au fond, ont quelque chose à voir, mais qui veulent dire radicalement des choses différentes. Une fuite, il y a l'idée de fugue.
Après, il y a l'éloge de la fuite de Laborie, où il dit, lui dit que c'est la seule solution aujourd'hui face à, disons, à la violence du monde, la violence, quelle qu'elle soit, sociale, n'importe quel type de violence, que la seule réponse, finalement, est la fuite aussi dans l'imaginaire. Parce que l'imaginaire est quelque chose, finalement, de... peut-être de beaucoup plus concret qu'on ne le pense, et du coup, pourquoi pas fuir dans ce monde qui est créatif, qui est vivant, qui est dynamique.
Mais la fuite me semble impliquer un danger, on fuit un danger, une douleur. Ouais. Et certains sont plutôt paralysés devant le danger. Le jour où j'ai dû fuir, j'ai fui, mais...
Mais on est victime, fuite, on attaque ou on fuit, quoi. Voilà, c'est les trois modes.
Mais est-ce que la fuite, c'est... s'apparente à une lâcheté, je sais pas. Ouais. Moi, je préfère la fugue, mais avec tout ce que la fuite comporte de fuite également.
Mais de liberté, qu'on n'a peut-être pas dans fuite. En fait, fuite impose une contrainte, peut-être. Alors que la fugue, un choix de liberté immédiat.
Ouais, c'est sûr, mais par exemple, dans le livre, mon grand-père, là, pour revenir à quelque chose de personnel, a beaucoup reproché à ma mère cette fugue, parce qu'il a considéré que c'était une fuite. Il a considéré que c'était un caprice, quoi, que son désir de liberté n'était qu'un caprice, par rapport à faire face aux réalités qui sont, pour lui, étaient extrêmement pénibles, mais c'était comme ça, il n'y avait aucun... possibilité de le changer, il fallait juste être là et puis subir, quoi. C'était son truc. Donc là cette fuite-là, qui est la fugue, est quand même un élan de vie, en vrai.
Ouais. Fuite et fugue, élan de vie. On continue à en parler avec Sigolène Vincent, qui publie Maritima aux éditions de l'Observatoire, et Arthur H, qui publie Fugue, au pluriel, au Mercure de France. On commence avec vous, Arthur H. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Brigitte, de Brigitte Fontaine.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Brigitte, toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois. Tu ne veux pas qu'on te voie. Pourquoi? Brigitte, toujours tu t'en vas chanter.
Brigitte de Brigitte Fontaine, c'est le choix d'Arthur H qui publie Fugue au Mercure de France. On est là pendant une heure avec lui, avec Sigolène Vincent qui publie elle Maritima aux éditions de l'Observatoire. Deux livres marqués par l'idée de fugue, de partir ou d'impossibilité à partir aussi. Arthur H, pourquoi avoir choisi Brigitte Fontaine?
Brigitte, je la connais depuis que je suis né, en fait. Et je me suis toujours senti très proche d'elle. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime et qui m'inspire beaucoup. C'est vraiment peut-être l'artiste qui m'inspire le plus en France. Sa démesure, son esprit, sa fantaisie, sa force, et aussi sa créativité, en fait. C'est quelqu'un qui se pose pas du tout le problème de la créativité, à part certains moments récemment où elle est un peu en souffrance, et à un moment je l'ai poussé vraiment à... Enfin bon, on peut entrer dans les détails, mais c'est quelqu'un, voilà, tu lui demandes un texte, elle a une feuille blanche, et voilà, une heure après, le texte sera fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fluidité. C'est comme si elle était entre deux mondes, en fait. Elle n'était pas vraiment là, ni vraiment ailleurs, ni vraiment au pays de Bach. Elle est au milieu, elle est entre les deux, vraiment. Et du coup, c'est une position assez inconfortable, mais en même temps qui est extrêmement créative, où elle peut recevoir sans cesse énormément d'informations, et puis avec cet art de la parole et de l'écriture qui est absolument sublime chez Brigitte.
Je me suis posé une question en lisant votre livre, Arthur H, parce que on vous connaît comme auteur, compositeur, chanteur, et je me suis dit, tiens, comment ça fait un auteur, compositeur, chanteur quand c'est devant une page blanche avec des mots en train d'écrire ce livre, un livre sans musique? Enfin, il y a la musique des mots, mais est-ce que vous n'avez pas envie immédiatement de mettre de la musique? Parce que je rappelle que c'est votre premier livre, des paroles de chansons qui ont été publiées, mais c'est votre premier livre, c'est votre, c'est votre premier récit, en tout cas. Et donc, est-ce que la musique s'impose pas pour presque parasiter ou accompagner le travail d'écriture pure?
Non, parce que j'ai déjà écrit des longs poèmes aussi, et la musique, c'est vraiment autre chose. Mais pour moi, la musique, c'est tout, en fait. Donc, je fais pas vraiment de différence. C'est, pour moi, ça, c'est de la musique aussi. Je veux dire, je mets pas trop de barrières, personnellement, en tout cas. Ça reste de la vibration, ça reste des images, ça reste du son. Les mots, c'est du son. Donc, pour moi, ça reste dans mon travail de musicien. Je me considère vraiment comme un musicien, en fait.
Mais est-ce que ça se chante, par exemple?
Non, ça se chante pas, parce que après, les chansons, c'est encore une technique à part entière qui est esclave de la mélodie. Les mots sont esclaves de la mélodie et surtout du rythme d'une chanson.
C'est toujours d'abord la mélodie, puis les paroles, dans votre cas, quand vous dites que les mots sont esclaves de la mélodie, il faut qu'il y ait...
Disons que même si t'as une méga inspiration et que t'écris les deux en même temps, la mélodie, le pouvoir de la mélodie et son rythme sont quand même plus puissants que les mots. Les mots doivent s'adapter au rythme. Et quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand c'est la mélodie qui s'adapte aux mots, c'est toujours un peu plus faible, en fait.
Mmh. Et qu'est-ce que vous cherchiez, donc, Arthur Hache, en écrivant Fugue? Donc, justement, là, en écrivant pas une chanson, mais en optant pour ni un poème, mais pour une forme vraiment plus longue, la forme du récit. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette nouvelle forme d'écriture?
Par-delà l'expression personnelle et le désir de raconter une histoire personnelle et j'espère un petit peu universelle d'une jeune femme, voilà, qui veut se libérer de ses contraintes ou d'un jeune homme aussi perdu. Finalement, c'est assez similaire parce que entre la jeune femme qui est coincée dans son milieu et qui se retrouve en Corse, dans le maquis, dans un milieu un peu hostile, et moi-même qui prends des drogues, en fait, pour la première fois. Enfin, on me donne des drogues.
Oui, à votre insu, hein, les noblettes aux champignons. Voilà.
Et je me retrouve perdu dans ce voyage intérieur. Oui. Voilà, ça c'est la base, mais le plaisir tout simplement d'être dans les mots, parce que j'adore les mots, et de vraiment de prendre le temps de me plonger dans les mots. J'ai pris vraiment dans ma petite roulotte là qui était perdue dans les Landes, j'ai pris un plaisir. Je crois que c'était peut-être le plus grand plaisir de ma vie, parce que j'adore écrire des chansons. D'ailleurs, je vais toujours dans les Landes aussi écrire des chansons, et je me mets en transe, je suis avec mon clavier, là je... Cette idée de transe, mais vitale aussi, c'est nécessaire à la musique, mais là aussi c'était... Une autre transe, mais plus intérieure, plus douce, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ça vraiment.
Mais il y a une transe quand même dans cette écriture.
Bah oui, parce qu'à partir du moment où on rentre dans le monde intérieur, qui n'a pas de limite en fait, le monde intérieur est très très vaste. Et pour moi, le monde de l'imaginaire est un monde scientifique, dans le sens où c'est des techniques très précises pour toucher des choses très vraies en fait, de s'approcher du cœur des choses. Mais
quel genre de technique en fait?
La technique de poétique, la technique littéraire, la technique des phrases, la technique du vocabulaire, la technique de l'introspection, toutes ces techniques.
C'est proche de finalement d'une partition. On parlait de la fugue de Bach tout à l'heure, quand vous parlez de science.
C'est sûrement assez proche. Je suis pas expert parce que moi j'écris pas la musique, mais c'est vrai que la partition est quand même un peu contradictoire avec l'idée de musique, parce que la musique, c'est vraiment un flux vivant, quoi. La musique, c'est la vie dans l'instant, quoi. Alors, le fait de le noter, c'est pas capital, en fait, de l'écrire. Alors que l'écriture, c'est quand même, moi, j'ai eu énormément de plaisir à réécrire. Je l'ai beaucoup réécrit et en tournée. Alors, c'était dans le train. J'ai eu des longs voyages en tournée et ça, c'était un plaisir inouï aussi de refaire. Contrairement à la musique, dont je trouve la force de la musique, c'est d'être spontané, quoi.
Ouais, on la refait pas, quoi. Voilà.
Les plus belles musiques, c'est celles qui sont pas enregistrées. Hein, ouais.
Sigone Vincent, quand Arthur Hache parle de transe, parle de plongée intérieure, quand il parle de l'écriture, c'est un sentiment, un regard que vous partagez?
Je le partage tout à fait, oui. Même si l'écriture est naturaliste ou réaliste, il faut, je pense, rentrer en transe. Enfin, en tout cas, être presque transcendé au moment où on l'écrit, et j'aime également beaucoup retravailler, en fait. C'est là que je prends le plus de plaisir. C'est sous la contrainte et le retravail de l'écriture, c'est presque mathématique, moi, je dirais.
Ah aussi, donc, le terme de science, finalement.
Oui, je pense, oui.
Ouais, de science, il y a de musique aussi, de la langue, du rythme de chaque phrase. Ouais.
Alors, un petit mot, quand même, si on en a parlé au début de cette émission, Fugue, donc, au Mercure de France, Fugue au pluriel, c'est le récit de trois fugues. Une qui est inventée, en fait, celle de Bach, Jean-Sébastien Bach, qui un beau jour se pointe dans la roulotte de cirque qu'occupe le narrateur, et on a compris qu'occupe, en fait, Arthur Hache, lui-même. lui-même pour écrire. Et Sébastien Bach lui demande de lui raconter des histoires parce qu'il a besoin d'inspiration, hein, Jean-Sébastien Bach. Peut-être pour terminer cette fugue qui pour nous est inachevée, vous vous y mettez, vous lui racontez des histoires de fugue. Alors celle de Nicole, 17 ans, votre mère, jolie fille à la forte tête, qui en 58 quitte la banlieue communiste d'Argenteuil, se sent vraiment prisonnière de ce milieu, elle veut s'échapper, et elle fugue le soir de ses 18 ans avec quelques copains que vous appelez des desperados. Et elle prend le maquis, ils veulent aller à Tahiti, mais en fait avant ils s'arrêtent en Corse, ils dorment dans le maquis, ils vivent dans le maquis, puis dans un village où ça va mal tourner. Et c'est ce qui va finalement provoquer son retour. Hein. Deuxième fugue, c'est la vôtre, après un voyage avec votre père Jacques en 1982, en Guadeloupe, après avoir pris, c'est vrai, quelques champignons hallucinogènes. Je disais à votre insu, parce qu'en fait, on vous sert une omelette, c'est pas du tout, il fait chaud, c'est pas du tout l'heure de l'omelette. Mais bon, voilà, on vous dit de la manger. D'ailleurs, il y a une certaine perversité des adultes, hein, à se dire, on va lui faire essayer un truc.
Oui, je pense que c'était une époque où il y avait beaucoup de drogue, et c'était pas très longtemps après le mouvement hippie, donc comme je dis, il y avait cette tradition dans le mouvement hippie de foutre des acides dans ton thé, dans ton café, sans te le dire, pour te faire une surprise.
Je crois que John Lennon et George Harrison ont pris du LSD, c'est comme ça, c'est leur dentiste qui l'a mis dans le café, en fait.
Oui, voilà, ouais, c'est arrivé. Mmh. Puis le pauvre Steve Barrett des Pink Floyd, on lui faisait ça tout le temps, ce qui fait qu'il était tout le temps sans trip, sans même le savoir. Enfin bon, voilà, c'est encore autre chose. Mais ça participait de cette tradition-là, qui, en l'occurrence, pour moi, à 15 ans, très initiatique. Il y a vraiment deux choses qui m'intéressaient, c'est de raconter l'odyssée de ma mère et de ses compagnons dans le maquis en Corse, parce que je trouvais ça très poétique. Comment on fait sans rien, en fait, qu'on n'a rien du tout, et qu'on livrait à soi-même, et qu'on est adolescent comme ça, sauvage. Et puis, en ce qui me concerne, aussi, comment on peut décrire un voyage sensoriel comme ça, qu'on prend des drogues pour la première fois, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, quoi.
Il y a un jardin qui est magnifique. Alors c'est dans la maison de Coluche, hein, avec grand jardin, plein de plantes, et on ne sait pas si les plantes existent.
C'est devenu un vrai jardin
mais
botanique.
Mais quand on lit, je parle du texte, on se dit est-ce qu'elles sont dans son imagination.
Non, elles étaient là.
Le passage que j'ai choisi, j'aimerais qu'on vous entende lire, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension, oui, cosmique, poétique, sensorielle, très très présente. C'est le passage justement où cette bande de jeunes gens, dont votre mère, sont en Corse la nuit dans le maquis. Voilà, il y a un feu qui s'éteint. Voilà, c'est page 51 au bas de la page.
Mais quand le feu fut complètement éteint, ils découvrirent le ciel. Le ciel n'existait pas à Argenteuil. Ils découvrirent le cosmos et ils tombèrent dans l'univers. Ils n'auraient jamais pu imaginer que le ciel pût être blanc d'étoiles et l'univers infini. C'était une révélation majeure. Leur esprit négligea la distance qui les séparait de leur fade banlieue pour se concentrer sur la distance qui les séparait d'une étoile inconnue. C'était absolument effrayant et absolument rassurant à la fois. Leur œil, autrefois aveugle, puisqu'il ne butait que sur du lait et du banal, s'ouvrait soudain à l'inexplicable beauté du monde. Il retrouvait la jouissance naturelle de la vue, qui est de voir large et loin. Leur âme quitta leur corps pour partir en vadrouille du côté de la Voie lactée. Leur tête était complètement vacante, un simple miroir d'étoiles étincelantes agrandissant le vide absolu. Dans une hypnose parfaite, ils laissèrent l'image inversée du cosmos envahir leur cerveau apaisé, et le sommeil les prit tendrement dans cette extase naïve de mystique débutant.
De mystique débutant, merci, c'est très bien. Cette idée de la transe, hein, mystique débutant, dont on parlait tout à l'heure, de fuite hors du corps, en fait, qui prime, hein, dans le texte, hein, toujours, hein, la fuite hors du corps, quoi, sortir de là. Que ça soit vous,
Le corps, c'est-à-dire dans la nature, si c'est pas une fuite hors du corps, c'est quand même quelque chose de physique, parce que pour moi, c'est mêlé tout ça. C'est-à-dire que le corps doit être présent, en fait, parce que si on fuit du corps, s'il n'y a plus de corps du tout, c'est pas intéressant. Mais c'est, par contre, je pense, la richesse du corps, de la présence physique qui permet aussi à l'esprit de pouvoir voyager et de pouvoir revenir, peut-être.
Le corps, il en est beaucoup question d'ailleurs dans votre livre aussi, Ségolène Vincent, oui. Aussi, hein, notamment cette Jessica qui étouffe aussi d'ailleurs dans ce
carcan. Qui a trop de corps.
Voilà, qui a trop de corps.
Et pas assez d'étoiles.
Et pas assez d'étoiles. Il y a le corps de l'adolescent qui expérimente les sensations, on en parlait, et l'amour physique parce qu'en fait c'est aussi sa première fois après la drogue. Le corps de la jeune fille, donc votre mère, qui devient la proie un peu beaucoup d'ailleurs des désirs masculins. En quoi justement c'était important de dire par ce texte que cette fuite ou cette fugue, disons fugue, va de pair avec une libération des corps autant que des âmes, autant que de l'imaginaire en fait, autant que du regard vers les étoiles.
Ma mère a fui pas parce qu'elle étouffait, mais parce qu'elle était vraiment désespérée en fait. C'était un profond désespoir qui l'animait. C'est ça qui fait qu'elle a eu le courage de partir. C'était vraiment pas quelque chose de léger. Et puis le corps, effectivement, à l'époque, dans cette société-là, en général, était enfermé dans des idées vraiment absolument étouffantes. Et elle était en avance sur les années 60, années 70. C'est-à-dire que l'esprit des gens était déjà en avance. Mmh. Mais leur corps était bloqué dans le vieux monde, quoi. Mmh. Et du coup, ça crée vraiment une frustration très importante. Alors, je sais pas si on a beaucoup évolué, mais on a peut-être des corps plus heureux aujourd'hui, je sais pas, sûrement. Ce qui est beau aussi, c'est que leur esprit était en avance sur la société, sur cette idée de libération des corps. Parce que la raison pour laquelle ils voulaient partir à Tahiti, en vrai, c'était pour faire l'amour dans toutes les positions possibles et nu, quoi, je veux dire.
À la Gauguin.
Voilà, à la Gauguin, c'était leur idée, mais...
Mais vous dites en avance, c'est même tellement en avance que parfois, même si on se dit que vous convoquez les souvenirs dans votre roulotte, vous laissez les souvenirs remonter, vous les appelez. Mais il y a cette scène avec Jacques Higelin qui en fait vous laisse à 15 ans, vous voulez rester, il vous laisse en fait, il dit bah oui, il se débrouillera. On aime beaucoup Higelin, on se doute qu'il est capable de tout, mais là vous nous jurez que c'est pas de la fiction ça.
Ah non, mais enfin, en tout cas, ce qui concerne ma fugue et la fugue de ma mère, il n'y a aucune fiction. Hein, tout est absolument
vrai. Back, ouais. On se doute bien qu'il est parvenu vous voir. Mais donc oui, il y a ce côté, se laisser faire aussi. L'art de la fugue, c'est quelque chose qui se transmet.
Là, comme j'essaye de l'expliquer dans le livre, il y a toujours eu chez mon père... une espèce de confrontation entre l'indifférence et la confiance et que je savais pas, j'ai jamais su où était le curseur et je le sais toujours pas. Ouais. Disons, après ça dépend si je me sens bien ou pas bien.
Oui, faire confiance à son fils ou s'en foutre
voilà.
Totalement.
Et je pense que les deux étaient là, c'est-à-dire qu'à un moment quand il a eu le mot, il a apparemment selon mon frère parce que moi j'étais pas là, il a été une espèce de crise de panique, donc c'était quand même il était quand même inquiet. Mais qui s'est assez vite résorbé, quoi. La crise de panique a vite disparu, puis après il est passé à autre chose extrêmement rapidement. Du coup, on est passé de la confiance à l'indifférence. Voilà, c'est toujours quelque chose qui, en tout cas dans mon rapport personnel avec mon père, m'a énormément déstabilisé.
Il l'a lu le texte ?
Non, il l'a pas lu. Non. C'est d'ailleurs de la dédicace parce que j'aurais aimé vraiment qu'il le lise, et c'est pour ça que je le dédie à mon père. J'aurais aimé qu'il lise cette histoire qui parle d'une femme qu'il a aimée.
Le prochain, vous allez continuer justement dans cette voie, il y a les chansons. Est-ce que ça vous a paru plus fort que les chansons ou vous continuerez à faire les deux parce que les deux sont importants?
Oh, j'aime tellement les mots, j'ai très très envie, surtout dans cette putain de roulotte.
Mais il y a des mots dans les chansons aussi.
Il y a des mots dans les chansons.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus?
Mais plus j'écris en fait des chansons et plus j'utilise de moins en moins de mots et j'ai de plus en plus envie que les mots soient purement de la musique. Donc voilà, de la vibration, du son, ça m'intéresse plus quand même que de délivrer des messages ou raconter une histoire.
Donc plutôt les chansons que les récits. Il y en aura pas d'autres.
Non, mais simplement, si je peux faire les deux, je serais extrêmement heureux.
Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus ?
En fait, ce qui malheureusement c'est terrible à dire, mais ce qui me plaît le plus, c'est être seul et créer et des choses.
Ça donc, fait rire, Ségolène.
C'est terrible, c'est un grave défaut. Mais parce que même quand je suis sur scène, en fait, qui est aussi un lieu de plaisir très très intense. Je suis seul avec mes amis musiciens, on est connectés, je suis seul avec le public. Il y a toujours la scène, bizarrement, on est tous ensemble, mais c'est aussi une histoire de solitude. Ouais. Donc voilà, si je fais les deux, je suis très heureux.
On écoute un extrait quand même de l'invité surprise de la roulotte, Jean-Sébastien Bach, L'art de la fugue, Contrapunctus numéro 1, interprété par Andrei Vierou.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
L'art de la fugue de Bach, interprété par Andrei Vierou, Contrapunctus numéro 1. C'est en hommage à Arthur Ashe qui a intitulé son premier récit, Fugue au pluriel, au Mercure de France. Et à Sigolène Vincent qui publie Maritima aux éditions de l'Observatoire, un roman qui se passe bord de l'étang de Berre et où quelqu'un peut-être n'arrive pas à fuguer. Je vous voyais pianoter pendant qu'on écoutait Bach, Sigolène Vincent, et puis je voyais aussi sur votre avant-bras ce grand tatouage d'un cachalot et un bateau. C'est Moby Dick.
C'est Moby Dick, et nous avons une phrase extraite du livre: le monde est un vaisseau dans un voyage sans retour.
Ouais. C'est un peu l'art de la fugue reformulée.
C'est l'art de la fugue reformulée par Herman Melville.
C'est votre roman préféré?
C'est un de mes romans préférés. Ouais. Et ce tatouage représente une vieille gravure, enfin une vieille couverture du roman. Et le soir, quand je suis sur le point de m'endormir, je vois le dessin s'animer. Et voilà, j'ai l'impression d'être en mer.
Il vous aide à écrire ce tatouage aussi, à vous projeter justement dans des...
Souvent, j'ai des livres toujours sur mon bureau. J'ai Moby Dick, Les Travailleurs de la mer, La joie de vivre de Zola. Partout, il y a de la mer en fait. Et de temps en temps, je fais des pauses et je prends une page au hasard que je lis.
Ouais. Parce qu'on a vu ce grand roman de Melville aussi, comme, enfin, dans cette quête ou dans cette chasse à la baleine aussi. On peut y voir évidemment l'image du créateur traquant sa création aussi.
Oui, c'est ça.
C'est aussi une histoire d'écriture.
C'est une quête mystique en plus. Donc là aussi, c'est une histoire de barrer aux étoiles.
Elle vivait son corps en marais salant d'où s'évaporait la Méditerranée. Dans ses veines coulait la souffrance des gens d'étang. Celle aussi plus lancinante des gens de mer. Je le disais à l'orée de cette émission, Sigolène Vincent, vos mots sont âpres, ils sont parfumés, ils sentent la mer, ils sentent le pétrole, ils sentent les chevelures et les peaux qui se sont immergées ou qui sortent de la mer, ils sentent aussi les filets de pêche. Vous avez un don pour restituer toutes ces sensations, on en parlait avec Arthur Ashe, hein, l'importance de la sensation en littérature et restituer la sensation. Alors, dans ce roman qui s'intitule Maritima, qui est publié aux éditions de l'Observatoire, chez vous et chez Maritima, eh bien c'est un bout du monde où votre héroïne aurait pu fuguer, mais en fait elle y est plutôt encalminée. On est près de l'étang de Berre, à Martigues, et depuis son appartement, dans les hauteurs, Jessica, donc c'est votre héroïne, une jeune mère de famille, elle guette. Pas seulement Marseille au loin, la montagne Sainte-Victoire, pas seulement les salins, la Croix et les usines et les torchères qui brûlent, mais l'eau du chenal qui mène à la mer, parce que dans cette eau du chenal, il y a des poissons, des muges gorgés d'œufs précieux qui permettent de faire ce qu'on appelle la poutargue, le caviar de Martigues. Et elle guette en fait pour deux vieux pêcheurs complices, Joseph, son grand-père, et son ami Émile, qui ont tendu leur filet entre les deux rives du chenal. Et donc elle leur indique le moment, quand elle voit le nuage scintillant sous l'eau, le moment où il faut relever les filets. Elle guette cette arrivée des poissons, elle a un enfant, À ses côtés, Sébastien, 5 ans, dont le père est mort. Et puis, il y a tout autour. C'est vraiment une sorte de petit monde entre la mer, le ciel et la terre. Une sorte de Venise qui serait une Venise plus brute, en fait, plus âpre. Une ville de pêcheurs, une ville où on se bat aussi pour survivre. On se bat aussi contre l'arrivée des touristes qui ne voient pas en fait ce côté petit monde. Dans ce petit monde, il y a Antoine et Dylan qui sont deux orphelins recueillis justement par Émile, le compagnon de Jessica qui s'appelle Ahmed, qui est ingénieur et qui est malade, et puis Stéphane qui débarque dans cette histoire, amateur de randonnée sous-marine. Ça pourrait être paisible et ça ne le sera pas, puisque bientôt en fait la tragédie s'invite dans votre histoire. Et on se dit qu'il aurait peut-être fallu qu'elle fugue avant Jessica. Je le disais tout à l'heure, tant les bouts du monde sont aussi parfois le bout de la vie. Mais je dis rien parce qu'il ne faut pas gâcher vraiment le plaisir de cette histoire. J'aurais que vous nous racontiez, Sigolène Vincent, comment était choisi le lieu de cette intrigue que vous décrivez tellement bien. Donc cet étang de Berre, Martigues, cette petite Venise pauvre, française, totalement dans l'entre-deux. Un univers d'ailleurs aussi minéral qu'aquatique, aussi primitif que postmoderne. Et totalement romanesque. Pourquoi avoir choisi Martigues pour Maritima?
Parce que j'ai découvert Martigues en y vivant. J'y vis. Et j'étais très surprise en vivant dans cette ville de tout ce qu'elle pouvait receler de matière vivante et inanimée. C'est-à-dire que quand on parle de l'étang de Berre, généralement, les gens disent c'est dégueulasse, il y a des usines partout. Effectivement, il y a des usines partout. Mais en même temps, il y a une nature préservée et je voulais comprendre comment ce mariage-là était possible, s'il était seulement possible, et comment des paysages et une industrie vont déterminer ou non les personnes qui y vivent. Est-ce qu'il y a un déterminisme géographique ou pas? Et qu'est-ce qu'on fait de cette modernité qui n'est plus si moderne? Les usines ne sont plus si modernes, puisque maintenant on va vers une transition écologique. Donc voilà, que fait-on de cette petite ville qui est très jolie, qu'on appelle effectivement la Venise provençale, voilà, qui a des traditions séculaires, des pêches traditionnelles, des barques traditionnelles et ses usines.
Donc c'est l'étude d'un certain déterminisme au fond sur les personnages, de l'importance du lieu.
Ouais, au départ c'était ça l'idée, c'était de faire un livre sur le déterminisme et finalement qui part tout à fait ailleurs, plus vers la poésie que vers une étude sociologique. Mais l'idée était là, et aussi la beauté des usines et des paysages, comment en faire un roman, comment rendre belles des usines et comment rendre agréables des odeurs fortes.
Enfin, et vous avez posé, j'allais dire, votre chevalet, mais bon, on n'est pas dans, enfin, on est assis, parce que les images sont très présentes, mais votre plume, votre table d'écriture, votre atelier, donc au cœur de cet endroit pour l'observer et raconter.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps à déambuler dans la ville, à aller jusque en plein milieu de la zone Céveso. En fait, la ville est dans une zone Céveso. Et donc, j'ai pu aller au milieu des usines. Et ce qui est étonnant au milieu des usines, donc c'est de la pétrochimie, c'est qu'il n'y a pas un seul être vivant. Et on se demande comment marchent ces usines, parce qu'il n'y a pas d'âme sensible, visible au milieu des usines. Sauf, donc on traverse toute la zone Céveso et on arrive sur un petit hameau de pêcheurs avec un restaurant qui s'appelle La Caravelle, qui est connu parce que Robert Guédiguian y a tourné plusieurs fois, et c'est le lieu du film Le Fil d'Ariane. Et donc, ce petit hameau de pêcheurs au milieu des torchères, avec le bruit du feu qui sort des cheminées. Et voilà, c'est un endroit méconnu.
Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Arthur H, l'idée de restituer les sensations, les odeurs, les matières, les fritures d'anémones de mer. Moi, vous saviez, Arthur H, qu'on pouvait manger des anémones de mer.
C'est très bon.
Ça, c'est important. Voilà,
c'est important.
Sortir le...
C'est ce qui est difficile, parce que moi, je suis pas une intellectuelle. Enfin, je me considère pas ainsi. Et je ne fais que ressentir. C'est mon corps qui ressent. C'est des émotions, des impressions. Et comment passer du physique à l'écrit, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve, dans
le physique, écrit physique. Oui. Retrouver, voilà, c'est juste le passage par l'écrit pour retrouver le.
Voilà, pour retrouver la sensation physique. Ouais. Ce qui est important, c'est que le lecteur sente dans son corps ce que moi je ressens dans mon corps et que j'essaye de traduire par les mots.
Vous dites, il y a très peu d'êtres vivants dans ces usines. Ça, ce qui m'a frappé aussi dans ce livre, c'est la présence. Alors, il y a des personnages, mais c'est la présence animale. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, vous avez voulu écrire au départ un livre d'histoire naturelle. Il y a les muges. Et d'ailleurs, quand vous parlez des muges, vous parlez d'exode. Alors, c'est pas la fugue, là, c'est l'exode, ce donc les muges qui partent des étangs pour aller lâcher leurs œufs dans la mer et que les hommes stoppent, en fait, dans cet élan, prenant à l'animal ses œufs. Et puis, en fait, c'est une femme qui regarde ça avec son fils. Donc, une sorte de maternité enlevée d'un côté et puis celle qu'elle refuse, elle, puisqu'en fait, elle n'arrive pas à aimer son enfant. Au début du livre et à la fin, il y a un extrait. C'est présenté comme un extrait de livre, Histoire des animaux et des hommes,
ouais.
D'un certain Lannon. Alors, ouais. Ichtyologie pour les muges, et puis on finit par les mouches, parce que les mouches sont très présentes. J'ai pas trouvé, moi, cet auteur.
Parce que c'est Jessica, en réalité. Voilà. C'est Jessica qui se met à la fin à écrire un livre d'histoire naturelle. L'idée du personnage de Jessica, au départ, c'était justement cette jeune femme, un peu ronde, enfin, avec un certain embonpoint, qui a grossi dans les temps. Et qui a été empêchée de rejoindre le large.
C'est une muge.
C'est une muge. Et en fait, elle a grossi. Et elle, on ne lui a pas retiré ses poches. Mais son rêve, c'est qu'on lui... elle aurait voulu qu'on lui retire sa poche d'œuf avant d'avoir son enfant.
Et quel lien, justement, en fait, parce qu'il y a les mouges. On parle toujours des requins blancs qu'on aurait vus. Alors, c'est vrai que les requins, avec le réchauffement climatique aussi, on voit des espèces qu'on ne devrait pas voir, normalement, sur les côtes françaises. Mais cette importance de l'animalité, qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait, dans ce livre?
C'était juste pour montrer l'animal au sein de ces paysages industriels. Savoir, ils survivent quand même, et ils survivent mieux que les êtres humains, a priori. C'est-à-dire que dans la mer, on peut voir des dorades, des loups, etc. Beaucoup de poissons, même j'ai aperçu un poisson perroquet une fois, ce qui est assez étrange. Et c'est comment ces animaux survivent mieux que nous à tout ça.
Tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez voulu écrire une histoire naturelle. Qu'est-ce qui était si important pour vous dans l'idée, justement, de faire un traité, en fait, d'histoire naturelle? Alors même que les principaux animaux que vous mettez en place, c'est Jessica, c'est Ahmed,
voilà, c'est
Émile.
C'était recensé comme un livre d'histoire naturelle, recenser les différents humains avec leurs rêves, leurs désespoirs, leurs angoisses, et faire une classification comme ont pu les faire les grands naturalistes. Et s'ils ont fait ce travail-là, les naturalistes, c'est bien qu'il y avait un intérêt à le faire, à nous connaître mieux le monde vivant. Et voilà.
C'est de ce côté-là que vous lorgnez, que vous regardez littérairement. C'est ça qui vous intéresse.
J'aime ça, oui.
Parce que la dimension scientifique...
Scientifique et puis presque clinique. Et parfois, le clinique tend vers un moment la poésie. Ça fait, vraiment, pour moi, un livre d'histoire naturelle, je ne comprends pas tout. Il y a des mots... Il y a des mots que je ne comprends pas. Et du coup, à partir du moment où je ne comprends plus, pour moi, ça devient de la poésie.
Donc la littérature est là pour apporter de la poésie, mais aussi un certain enseignement, une idée de recensement, une idée... Parce que les traités d'histoire naturelle, il y a aussi de la poésie, d'ailleurs, surtout quand les animaux n'existent pas. Certains. Vous parlez de Pline l'Ancien, notamment, qui racontait des choses parfois très très étranges et anti-zoologiques au possible. C'est plutôt ça, c'est plutôt trouver la poésie dans l'apparente science.
Oui, c'est la poésie dans la science et dans des formulations qui sont incompréhensibles pour le commun des mortels, comme des incantations ou des prières païennes. Enfin, je sais pas, il y a de ça pour moi. Ce serait presque ma religion à moi c'est cette science-là de mots que je ne comprends pas, comme un message à décoder que je n'ai pas encore décodé.
Vous comprenez, Arthur H., ce que dit Sigolène Vincent?
Oui, ça me touche beaucoup. Et puis il y a aussi cette histoire de décor qui est absolument magnifique, parce que c'est-à-dire Martigues ou d'autres villes comme ça, on peut les voir comme des villes aussi un peu banales, aussi moches, aussi ça aussi triste en fait. Mais c'est aussi des décors de western, quoi. Et je trouve ça vachement beau. Parce que je trouve ça aussi très important qu'on arrive peut-être à se réapproprier un imaginaire français, parce que par exemple de la petite ville américaine, on en a bouffé, on connaît par cœur les petites villes américaines. On l'a vu des milliards de fois. Il y a des milliards de livres sur la petite ville américaine, des milliards de films, de séries sur la petite ville américaine. américaine. Et la petite ville française aussi, elle peut avoir, surtout quand c'est placé là, elle a un décor absolument extraordinaire, mais qui est déserté, en fait, par l'imagination. Moi, j'ai fait une grosse tournée, là, j'en ai vu vraiment beaucoup, j'ai vachement tourné, et puis tu sens que les endroits sont désertés spirituellement, en fait. Comme il y a plus de.
Et la littérature peut aider, en fait, justement, à remettre du jus.
L'imaginaire, énormément, ouais. Je pense. Et justement, peut-être ou peut-être pas, qu'on va se réapproprier un imaginaire comme ça, pas local, mais européen.
Alors, on va écouter Sigrun Vincent et la façon qu'elle a de remettre du jus, justement, dans ces territoires désertés ou en voie, peut-être, de désertification. On est dans le Cabanon. J'adore ce passage, dans la pénombre. Et les anémones dont on parlait tout à l'heure, elles sont là.
Je n'ai pas la voix aussi agréable que celle d'Arthur H. Mais... Bon.
Si. On en est sûr. Bon, lui, il est hors concours.
Voilà, c'est ça. L'intérieur du cabanon était plongé dans la pénombre. Seuls les défauts de jointure entre les plaques de tôle et les planches mal équarries laissaient filtrer un peu de clarté. La structure était à ce point instable et biscornue que les quelques raies de lumière qui la transperçaient s'y réfractaient comme à travers un prisme. Sans avoir rencontré aucun obstacle, un faisceau se brisait à angle droit et filait éclairé des hameçons de palangre suspendus au plafond. Un autre frappait la table et giclait sur des pots de confiture remplis d'eau de mer entreposés au sol. Grossissant derrière la paroi de verre, des anémones qui dressaient et agitaient leurs tentacules pour dissimuler leur bouche béante. Émile les ramassait sur les rochers de la côte pour les préparer en beignets. Il les gardait vivantes jusqu'à ce qu'il les roule dans une panure, mélange de vieux pain et d'ail, et les jette dans de l'huile bouillante. Comme il avait de plus en plus de mal à se baisser pour les attraper, il envoyait Antoine et Dylan les pêcher à sa place. Ils troquaient leurs sandalettes en cuir contre des sandalettes en plastique et sautaient de flaque en flaque, un couteau de plongée à la main. Penchés sur les poches d'eux, ensevelis sous le sel, Émile contrôlait leur dégorgeage. N'y voyant rien, il déplaça le bac vers les pots de confiture qui lui offrirent un bassin de lueur vive. L'ombre des anémones se détacha sur le blanc de la saumure, donnant l'illusion d'un jardin de gorgones. Émile enfonça un doigt dans l'une des bourses blondes. Sa texture était encore trop élastique. La poutargue n'avait pas rendu toute son eau et ses bactéries n'étaient pas neutralisées. Il ne pourrait pas les crocheter aux hameçons avant au moins 4 heures. Du pied, il repoussa le bac dans l'obscurité. L'ombre des anémones mourut. La fin des polypes marins était annoncée. Il les cuisinerait ce soir. Dans un placard soutenu par une cale, il prit une bouteille de pastis et deux verres. De sa démarche indolente, il ressortit au grand jour. Joseph n'était plus sous la tonnelle. Il y avait pourtant laissé en pleine sieste. Les deux jeunes pêcheurs étaient partis depuis longtemps. « Oh, collègue, où tu es ?» s'écria Émile. Il contourna le cabanon et retrouva Joseph à l'arrière, urinant contre un tas de pneus usagés et d'objets hétéroclites sur lequel se tenait un chat blanc auquel ils avaient donné les restes de muge. L'animal mangeait la chair fraîche accrochée aux arêtes. Il ronronnait.
Voilà, et c'est sur ce ronronnement que nous allons... C'est très très beau, vraiment très belle langue. On va tous aller sur l'étang de Berre.
Voilà, je vous y invite.
Pour lire devant l'étang de Berre. Oui, Berre, il y a beaucoup de lumière, hein, de réflexion. Vous avez choisi comme choix musical, et on va l'écouter, on parlait de Moby Dick, La Baleine Bleue de Steve Waring.
Ouais. Après Bach, ça fait un choc.
Pourquoi ce choix musical?
Parce qu'on m'a dit que je pouvais choisir ce que je voulais. Bah, et tout d'un coup, j'avais envie d'écouter La Baleine Bleue, Cherche de l'eau.
Alors, c'est un conte, c'est ça?
C'est une chanson, mais qui date, parce que j'étais enfant quand j'écoutais cette chanson.
C'est une chanson pour enfants.
Vous la connaissez?
C'est une chanson pour enfants, La Baleine Bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux, et elle trouve pas d'eau, elle trouve du détergent à la place. Et voilà, c'était pour mêler la mer avec l'industrie.
Voilà, la chimie.
La chimie.
L'alchimie de l'écriture. Merci à tous les deux. Merci Sigolène Vincent.
Merci
Arthur H. Merci. Je rappelle le titre de vos livres, Fugue. Donc c'est au Mercure de France, dans la collection Traits et Portraits. Et Sigolène Vincent, Maritima, aux éditions de l'Observatoire. Et Arthur H., je rappelle que vous serez donc, c'est à Marseille, c'est dimanche 2 juin, ça, au MUCEM, les lectures de Fugue.
Oui.
Hein, voilà, au festival Les Beaux Jours. Et on attend votre lecture, Sigolène Vincent.
Oui, bien sûr. Je vais prendre des leçons avec Arthur H. Je reviendrai après.
Voilà. Merci à tous les deux. Le Temps des Écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Pierre Monteil à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pour écouter à l'infini cette émission sur franceculture.fr avec Sigolène Vincent et Arthur H. Et on écoute La Baleine Bleue de Steve Waring.
Cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
oh 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 H2O, oh 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 H2O. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses.
Beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O,
la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. Oh oh oh, oh H2O, oh oh oh, oh H2O.
Elle a trouvé du détergent,
elle a trouvé du détergent.
Du détergent,
beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O,
la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
Oh oh oh, oh H2O,
oh oh oh, oh H2O.
Elle a trouvé un pétrolier,
elle a trouvé un pétrolier.
Pétrolier,
du détergent,
beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O,
la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
Oh oh oh, oh H2O,
oh oh oh, oh H2O.
Elle a trouvé du DDT,
elle a trouvé du DDT.
DDT,
un pétrolier,
du détergent,
beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O,
la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.
Oh oh oh, oh H2O.